Tubulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Et puis ensuite, avec Laurent Cordonnier, nous recevrons Christian Lejaune. Christian Lejaune fut un Arrageois particulièrement actif sur le terrain culturel, social et associatif. Il est l'un des fondateurs de notre radio en 1981. Nous le recevrons à l'occasion de la sortie de son livre « Le silence a le poids des larmes » qui paraît aux éditions L'Harmattan. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1131. Jean au micro, salut.
Bonjour, tumulte. Les portes de l'atelier Sévigné se sont entrouvertes le mois dernier. Nous les ouvrons un peu plus aujourd'hui, avant que de les ouvrir toutes grandes l'année prochaine, toute prochaine. Sévigné, mère et fille. 6 février 1671. Madame de Sévigné à sa fille. Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Aussi, je ne l'entreprendrai pas. J'ai beau chercher, ma chère fille. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. 9 février 1671. Je reçois vos lettres. Comme vous avez reçu ma bague, je fonds en larmes en les lisant. Il semble que mon cœur veuille se fendre par la moitié. Il semble que vous m'écriviez des injures, ou que vous soyez malade, ou qu'il vous soit arrivé quelque accident. Et c'est tout le contraire. Vous continuez votre voyage sans aucune aventure fâcheuse, et lorsque j'apprends tout cela, qui est justement tout ce qui me peut être le plus agréable, voilà l'état où je suis. Vous vous avisez donc de penser à moi, vous en parlez, et vous aimez mieux m'écrire vos sentiments que vous n'aimez à me les dire. De quelque façon qu'ils me viennent, ils sont reçus avec une tendresse et une sensibilité qui n'est comprise que de ceux qui savent aimer comme je fais. Vous me faites sentir pour vous tout ce qu'il est possible de sentir de tendresse. Mais si vous songez à moi, soyez assurés aussi que je pense continuellement à vous. C'est ce que les dévots appellent une pensée habituelle. C'est ce qu'il faudrait avoir pour Dieu, si l'on faisait son devoir. Rien ne me donne de distraction. Je suis toujours avec vous. Je vois ce carrosse qui avance toujours et qui n'approchera jamais de moi. Je fais tous les jours dire une messe pour vous. C'est une dévotion qui n'est pas chimérique. 16 mars 1672. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants, mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Quand sera-ce? En quelle disposition? Souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespérée? Aurai-je un transport au cerveau? Mourrai-je d'un accident? Comment serai-je avec Dieu? Qu'aurai-je à lui présenter? La crainte, la nécessité feront-elles mon retour vers lui? N'aurai-je aucun autre sentiment que celui de la peur? Que puis-je espérer? Suis-je digne du paradis? Suis-je digne de l'enfer? Quelle alternative? Quel embarras? Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude. Mais rien n'est si naturel, et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ces pensées, et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement, point du tout. Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément. Mais parlons d'autre chose. Melody, za my name, kam se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ni bílá, ani čern, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má. Au revoir, tumulte. À l'année prochaine. Bonne fête. Et à se revoir avec, à s'écouter, à s'entendre avec Sévigné, mère et fille.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois.
Tady ani tam sama, ani sama, ni bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Et dans quelques 5 minutes, nous recevrons avec Laurent Christian Lejaune à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Le silence a le poids des larmes, livre paru aux éditions L'Harmattan. Thank you.
neklekej si, kde je země měká, neklekej si, kde tě hlína čeká, čekáš, když hoří, když klesám já, klesám já. V lahvi je hladina zvlněná mezi dlaněmi, peří, peří na střeskle, nedýchá ani pí, pírko se nehýbá, teď výšku nabírá a vzletá letí. Aha, no, 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 no,
Balaké Sissoko, extrait de son nouvel album At Peace. Avec Laurent Cordonnier, nous recevons Christian Lejaune, qui fut un Arrageois très actif sur le terrain culturel, social et associatif. Son livre intitulé « Le silence a le poids des larmes » vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Christian Laurent, bonjour, bonsoir.
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 Alors dans cette émission, nous allons aborder, si vous voulez bien, quatre thèmes. Christian Le Jaune et la ville d'Arras, la question du passage à l'écriture, au livre et à l'édition, c'est-à-dire au livre édité plus exactement. L'objet ou le sujet du livre intitulé, donc on l'a dit, Le silence a le poids des larmes. Et pour terminer, une question qui pourrait s'énoncer sous la forme, quel rapport entre livre et vie? D'accord, comme ça?
Ça marche.
On va essayer. Alors, déjà pour commencer, on va préciser une chose, c'est qu'on va se tutoyer.
Et on va essayer.
On va se tutoyer sans difficulté. Il y a une raison à cela. Hein, Laurent, peut-être tu veux...
On pourrait presque dire qu'elle est historique, puisque enfin, pour ma part, toi peut-être c'est encore plus vieux, mais pour ma part ça fait quand même... C'est un ami de 30 ans, Christian. Bon. Donc ça va être difficile de le vous voyez. Et j'ai fait sa connaissance, peut-être comme d'autres ici, au moment où j'ai intégré, on va dire ça comme ça, l'équipe de PFM.
Voilà, et ben donc pour les mêmes raisons et même antérieures à la création de Radio PFM qui s'est appelée d'abord primitivement Radio Provisoire. Je connais Christian depuis qu'il est lycéen à Arras. Je crois que
ça doit faire une bonne quarantaine d'années, je pense.
Une quarantaine d'années, voilà. Voilà, donc on va pas faire semblant, on va se tutoyer. Alors. Pour commencer, Laurent, hein, puisque nous allons interviewer tous les deux Christian, pour commencer peut-être une appréciation générale sur le livre, Le silence a le poids des larmes. Laurent.
On continue dans les difficultés, parce que la première difficulté, c'est que quand on lit le livre d'un copain et qu'on l'apprécie beaucoup, on se demande comment on va lui dire. Parce que... Bon, il y a quand même dans les compliments qu'on lui adresse, il y a quand même toujours une tonalité qui est du style « Ah ben, je pensais pas que tu pouvais faire un truc comme ça. Bon, » c'est forcément renvoyé, quelle que soit la manière dont on le tourne, c'est renvoyé comme ça. Mais en fait, c'est vrai, il faut le dire comme ça. On ignore de quoi sont capables nos amis. Et tant mieux. Bon. Et du coup, j'ai été très très impressionné par ce livre. D'autant plus que bon, bah, c'est vrai que on me tend tellement de livres à lire et j'ai tellement l'habitude de lire des livres de gens que je connais que souvent ça s'annonce quand même un peu comme un devoir, quoi. Bon, il faut y aller, quoi. Et alors quand ça se termine par, enfin ça commence même par une très bonne surprise, ça a été un vrai bonheur. Et je trouve que dans ce livre il y a énormément de qualités qu'on trouve rarement réunies dans une même œuvre. Bon, il y a les qualités d'enquêteur, parce que c'est un livre, on va le dire, d'enquête sur la vie du grand-père de Christian. Donc il y a les qualités du flic, de l'enquêteur, il y a les qualités de l'historien qui sait mobiliser les documents d'archives, qui sait les faire parler, quand je dis qu'il sait les mobiliser, c'est-à-dire qu'il sait les intégrer, les amalgamer à une histoire forcément un petit peu romancée. Et puis il y a des qualités d'écriture absolument indéniables qui fait qu'on est pris par le style, par le rythme, par le suspense, par la construction quoi, du livre. Donc voilà, je suis content d'être là ce soir.
Bon, donc Laurent a aimé. Bon, moi, l'appréciation générale est analogue. Hein. J'étais effectivement heureusement surpris. Évidemment, il y a cette difficulté de lire quelque chose qui vient de quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas comme écrivain. Bon, on verra un petit peu l'histoire de l'écriture avec toi, Christian. Mais oui, effectivement, un livre que j'ai trouvé bien construit, bien charpenté et avec un style. Donc c'est quand même ce qui est nécessaire à un livre. Hein. C'est bon. Donc une bonne appréciation. On part, Christian, avec une bonne impression. On démarre là-dessus.
Bon, les gars, les valises de billets sont dans le coffre de ma voiture.
On espère bien.
Je dirai pas la marque pour pas qu'elle soit forcée avant qu'on ait terminé l'émission.
Voilà. Alors on va aborder le premier point de notre entretien. Ton histoire, Christian, mêlée à celle d'Arras de ces 40-50 dernières années. Bon, on verra que ces différents points que l'on va aborder dans cette émission, en fait, évidemment, se résonnent les uns avec les autres, s'interpénètrent. Donc, on passera peut-être de l'un à l'autre. On fera quelques va-et-vient, mais on va quand même essayer de tenir ce rythme de passage. Bon, ton histoire à Arras. Bon, tu es arrajois, un pur arrajois.
Ouais, je suis né à Arras, rue de la République, derrière la gare. Il y a 54 ans, un petit peu plus. Donc effectivement, pour moi, Arras, c'est vraiment une ville emblématique. Je l'ai quittée depuis 12 ans. Quand, la semaine dernière, en arrivant sur le quai de la gare, j'entends « ici Arras, ici Arras ». J'habitais, quand j'étais enfant, le long des voies ferrées. Il y a plein de trucs qui remontent, quoi. C'est assez fabuleux. Et quand je me balade dans les rues d'Arras... Je me sens à la maison, quoi. Je me sens chez moi. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas des autres villes où j'ai vécu et où je vis encore aujourd'hui.
Mmh. Tu es né à Arras, mais tu as passé un long moment. Mais bon, je pense que ce qui fait qu'une personne, à un moment donné, peut dire qu'elle est d'une ville, c'est aussi parce qu'elle y a fait ses études, elle y a passé son adolescence, ce genre de choses, quoi. C'est quand même ce qui fait qu'on se sent d'une ville, non ?
Ouais, en fait, quand je me balade dans les rues, je crois que je pourrais quasiment retrouver une anecdote par coin de rue, quoi. Là, j'ai collé une affiche et il y a un papy qui est sorti en m'engueulant parce que je salopais son mur. J'ai fait un truc avec Jean. Là, on a pris une biture avec Laurent.
Voilà, alors ton histoire à Arras, c'est les années lycées. Alors les années lycées, c'est les années 70.
À Robespierre.
Alors c'est important de dire, c'est les années 70. C'est-à-dire ce sont des années quand même très effervescentes dans le milieu lycéen.
Ben ouais, parce que c'était juste après 68, donc il restait quelques vieux souvenirs quand même. Mmh. Moi en 68, j'étais en CM2, il y a eu une longue interruption d'école, j'étais super content de pouvoir rester à la maison. Et j'ai intégré donc le collège Robespierre en septembre 68, donc c'était vraiment juste derrière. Et c'était encore des années hyper mouvementées, puisque les grands, comme on disait dans ma classe à l'époque, étaient en grève. J'ai un petit épisode rigolo à raconter à ce sujet. Mon frangin était en terminale l'année où moi j'étais en sixième. Et donc le midi, un jour en rentrant, je lui raconte que le principal, il est venu dans notre classe et qu'il a dit « Vous, les collégiens, interdit d'aller à l'Assemblée Générale dans le hall du lycée cet après-midi. C'est bon pour les lycéens, mais pas pour les collégiens. » Donc je raconte ça le midi à mon frère. Et l'après-midi, ils font leur assemblée générale. Et donc, mon frère dit au proviseur « Mais vous n'avez pas le droit d'interdire aux petits jeunes de venir à l'assemblée générale s'ils en ont l'envie. » Et le proviseur dit « Mais on n'a jamais dit ça. » Et donc, les copains de mon frangin sont venus carrément me séquestrer pour que je dise les yeux dans les yeux au principal « Si vous êtes passé dans ma classe, dire que… » Bon, ben voilà, ça forge un tempérament quand même.
Alors bon, les années lycées à Robespierre, un comité de lutte. Bon, je dis ces années effervescentes parce qu'on a du mal à imaginer comment il existait à cette époque-là un mouvement lycéen avec des tas de discussions. On rencontrait des lycéens qui étaient écologistes, des lycéens d'extrême gauche, des gens qui lisaient Freud, des gens qui lisaient Marx, qui lisaient tout. Et c'était quand même étonnant, non ?
Ouais, moi ça me paraissait naturel que ça se passe comme ça. J'imagine pas que ça ait pu se passer d'une manière différente. C'est vrai que la plupart de mes petits camarades, ils étaient plus normaux sans doute, mais on était un certain nombre à avoir envie d'occuper autrement nos heures de cours que d'écouter le prof, quoi.
Toi, tu as été un militant actif des comités d'action lycéens.
Ouais, je me souviens d'une revendication qui était B12 pour tous sans condition. Alors B12, c'était une salle de cours on revendiquait comme une salle qui devait être une salle disponible pour tous les collégiens, les lycéens, dans laquelle ils puissent aller sans être obligés d'aller dans une salle de permanence avec un pion, un surveillant qui contrôle qu'ils faisaient bien un travail scolaire. Et on l'a obtenue, cette salle, après de longues années de lutte. Et de temps en temps, on invitait des profs à venir discuter avec nous. Et il n'y en avait souvent quand même pas beaucoup qui acceptaient la confrontation. Je me rappelle principalement d'un prof d'histoire géo, qui lui bravait un peu les interdits sans doute de l'institution, hein, pour venir se confronter à nous. Il avait des points de vue qui n'étaient pas du tout les nôtres, mais il venait en débattre dans notre salle libre et disponible pour les jeunes. Ouais, c'était courageux.
Bon, on va pas raconter toute ton histoire arrageoise, mais disons que bon, après le lycée, ton activité, ton activisme, on va dire peut-être aussi militant, enfin entre guillemets, engagé sur le terrain social et associatif, s'est prolongé. Très fortement.
Bah, oui. Et puis c'est un des premiers écolos quand même.
Ah oui, oui.
Il s'est présenté aussi aux élections. Mmh. Et puis comme beaucoup d'Arrajois, il les a toutes perdues.
J'ai le souvenir d'avoir fait avec mon ami Pierre, qui était dans la même classe que moi, la campagne présidentielle appelant à voter pour Dumont, qui était le premier écologiste patenté qui se présentait à une élection présidentielle, et on avait aucun moyen, hein, donc on écrivait avec des feutres sur des feuilles A4 qu'on allait coller avec du scotch dans les abribus.
Ouais, donc l'écologie d'ailleurs, bon, vous êtes toi, ton frère et puis une certaine bande aussi à l'initiative de la création de la première coopérative biologique à Arras. Coopérative,
ouais,
bio.
C'est possible que c'était la première, je sais pas. Écoute, très bien. Mm-hmm. C'est possible.
D'autres engagements qu'on va peut-être souligner, des engagements associatifs marquants. Bon, il y a la création évidemment de Radio PFM en 1981, et quelques temps après aussi la création de Didouda.
Ouais. Et puis bon, entre-temps. Surtout dans les années 70, plutôt dans les années 70, pas mal d'engagement dans les mouvements pacifistes, antimilitaristes, antinucléaires. Mmh.
Le Larzac a été un...
Ouais, le Larzac, c'était un gros moment de mobilisation pendant de nombreuses années, à la fois en allant là-bas les étés dans les grands rassemblements, où il se passait des choses formidables, quoi. J'ai le souvenir de nuits complètes à entendre des concerts, couchés dans un duvet. Quand t'es ado, ça laisse quand même des traces, des choses comme ça. J'ai découvert notamment Maurice Bénin, qui était un chanteur qui chante encore d'ailleurs, qui pour moi ressemblait un peu à l'époque à Léo Ferré en plus jeune, quoi. Et c'était assez fabuleux de découvrir ça dans le petit matin du Larzac. Avec la brume qui montait et tout, c'était chouette.
Maurice Bénin qui était venu faire un concert à Arras, à la salle des concerts.
Exact, ah oui, avec des événements, des moments fabuleux, parce que ces musiciens fumaient des pétards, voilà, sur scène. Et à un moment, un pompier est venu leur dire « mais arrêtez de fumer, même des cigarettes
». Voilà. Bon,
j'avais oublié ça.
Ouais. Bon, on va pas égrener tous les engagements militants, associatifs. Bon, on a cité la radio, Didouda. Peut-être aussi citer au niveau professionnel là quand même, parce que tu étais quand même quelqu'un qui était un peu en rupture d'études.
Ben oui,
on peut dire ça.
Ben oui.
Un décrocheur.
Un décrocheur d'avant l'époque. En terminale, j'ai dû aller peut-être à 30% des cours sur l'année. Par contre, j'allais à des cours qui n'étaient pas dans mon programme. J'allais aux cours de philo de terminale A, parce que la prof de philo, qui s'appelait Martine Berthoux, faisait des cours super intéressants et j'allais à ses cours de philo. Donc j'avais deux fois des cours de philo dans la semaine, mais je ratais les cours de maths parce que ça m'emmerdait joyeusement.
Voilà, en rupture d'études, mais études que tu as reprises d'une certaine manière, d'une autre manière, beaucoup plus tard.
Ouais, c'est ça qui est quand même un truc intéressant dans nos systèmes sociaux, c'est qu'il y a quand même une deuxième chance pour ceux qui sont pas prêts ou qui ont pas envie de rentrer dans le moule de l'école, c'est que on peut, avec la formation continue, faire des choses. Moi, j'ai appris, je peux dire que j'ai appris à écrire en rédigeant des tracts, hein. Je crois que c'est vraiment ma base d'écriture, elle est dans la rédaction de tracts, dans la rédaction de journaux, de magazines, etc. C'est vraiment une constante. Et à un moment, effectivement, j'ai eu le désir de me qualifier pour avoir un boulot digne de ce nom. Et donc, j'ai fait une formation d'animateur socio-culturel et de responsable d'équipements sociaux et culturels. Et après, j'ai fait une maîtrise, même à la fac de Lille.
Et c'est comme ça que tu as dirigé, tu as été chef de projet pour la politique de la ville, enfin je ne sais plus exactement comment ça s'intitule.
Le développement social des quartiers.
Ouais, à l'époque ça s'appelait le développement social des quartiers. Je suis arrivé en 87, si je ne dis pas de bêtises, sur Roubaix, dans un centre social qui était en phase de mise en route, hein. Sur un quartier vraiment complètement déshérité, et j'y ai bossé 3 ans, et c'était un quartier qui était dans ce qu'on appelait pas encore la politique de la ville, mais effectivement le développement social des quartiers. Et quand ce dispositif là s'est un peu élargi sur plus de territoires nationaux, sur l'agglomération d'Arras, il y a eu deux secteurs qui étaient éligibles. C'était la résidence Saint-Paul et les Blancs-Monts, et les quartiers des nouvelles résidences Saint-Nicolas-Saint-Laurent. Donc j'avais envoyé mon CV des deux côtés, et Fatou n'avait pas voulu de moi. On se demande pourquoi.
Et, il a des bonnes fiches. Hein.
Il était bien renseigné.
Il était bien renseigné.
Et donc j'ai bossé sur le secteur de Saint-Nicolas-Saint-Laurent de 90 à 97, et après sur l'ensemble des quartiers en politique de la ville, sur la Glo d'Arras, en intégrant Achicourt et Beaurain et Arras Sud.
Alors, ce qu'on ne saura pas, c'est pourquoi un personnage aussi bien intégré dans sa ville, dans toutes ses associations, qui connaissait pratiquement tout le monde et tout le monde le connaissait, pourquoi il est parti? Bah, on ne sait pas, on ne sait même pas si on peut lui poser la question.
Si, c'est peut-être pour ça, justement.
Alors justement, ça, c'est peut-être la question du passage à l'écriture qu'on va aborder, mais juste avant, puis on va faire une petite pause musicale. Est-ce que, pour terminer sur cette partie ton histoire avec Arras, est-ce qu'il y a, est-ce que tu arrives à trouver un fil qui relie tout ce que tu as fait avant ton départ pour Montpellier, c'est ça?
Écoute, ouais, pour moi le fil, il est en finale quand même dans l'écriture.
Ah,
c'est ça qui est assez cocasse. Et, j'en ai pris conscience il y a pas très très longtemps, et je me suis rendu compte que dans chaque engagement que j'ai pu avoir, à chaque fois j'avais un crayon dans les mains, quoi, en finale. Parce qu'il fallait communiquer sur des causes, parce qu'il fallait s'expliquer, parce qu'il fallait faire une motion qu'on partageait, etc. Et je crois que ça a été ça, la constante, en finale.
Quiconque a vu Christian prendre un PV de réunion et vous l'envoyer le lendemain déjà tout réécrit et poli et peigné peut témoigner du fait qu'il avait toujours un crayon à la main.
Je m'appelle Jacques Joseph Higelin, dit Crabouif.
Je m'appelle Areski, dit Gonflos Premier.
Ah,
oui.
Je suis né le 18 octobre.
Je suis né un 23 janvier à Versailles.
Moi, c'est Ambrou sur Chantraine. Je suis le seul individu au monde à qui ceci est arrivé.
et nul n'y peut rien.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Avec Laurent, nous sommes en compagnie de Christian Lejaune à l'occasion de la sortie de son livre intitulé « Le silence a le poids des larmes », livre paru aux éditions de L'Harmattan. Alors on va aborder maintenant la question justement du passage à l'écriture. Christian, tu as déjà donné une clé, disons, d'origine, c'est l'écriture comme fil conducteur de tout ton activisme, entre guillemets, ou ton activité militante, sociale et culturelle, et y compris peut-être professionnelle. Comment ça s'est fait, le passage à la décision d'écrire pour écrire C'est-à-dire qu'il ne soit plus simplement l'écriture comme outil militant, disons.
Ouais, de changer un peu de registre d'écriture. En fait, Laurent, quand tu dis que j'étais connu de tous et que tout le monde me connaissait, c'est un peu ça. Et il y a eu un moment où c'est devenu trop lourd, je crois, pour moi, trop pesant. Le fait que je puisse pas faire 50 mètres dans la rue sans m'arrêter 15 fois, qu'un parcours de 3 minutes durait 2 heures, c'est devenu trop lourd pour moi. Et cet activisme était devenu, au bout d'un moment, de mon point de vue, contre-productif. C'est-à-dire que j'y trouvais plus obligatoirement beaucoup de plaisir. J'avais besoin de faire quelque chose d'autre.
Oui, mais nous, non, on ne trouvait pas ça du tout. On trouvait que tu animais très bien Didouda. On n'a pas compris du tout pourquoi tu nous laissais tomber. Enfin, voilà, ouais, tu comprends.
Et donc, j'ai eu l'envie de changer complètement de lieu, parce que c'était sans doute la seule manière pour moi de dire non, en fait. Parce que je ne me sentais pas capable de dire non aux copains, de dire non à des choses à faire dans le cadre des différentes associations ou activités que j'avais. Et donc, la manière qui m'a semblé la plus évidente, c'était de mettre 1000 km de distance, parce que là, au moins, c'est radical. On ne t'appelle plus le midi pour te dire « Mais tu as pensé à tel truc, comment il faudrait faire ci, comment il faudrait faire ça ?» Et donc, je me suis retrouvé sur Montpellier. Hein, j'ai cherché un boulot et j'ai été recruté sur Montpellier. Et là, je m'étais promis vraiment un truc, c'est surtout ne refais pas la même chose. Donc quand des copains, par le biais de copains, sont venus me voir en me disant « Ouais, on est un groupe anard, on fait des trucs sympas », j'ai dit « Non, non, je ne veux pas ». Ils m'ont dit « Ouais, t'es qu'un petit bourgeois ». J'ai dit « Ouais, c'est vrai ». Et en arrivant donc sur Montpellier, ben, je me suis posé, parce que là, effectivement, j'avais du temps. Et j'ai eu de nouveau envie de lire, hein, ce que j'arrivais plus vraiment beaucoup à faire sur Arras. Et à partir du moment où j'ai remis le nez dans des livres, assez rapidement, l'envie d'écrire est revenue, mais d'écrire pas un tract, etc. Quoique, quand j'ai eu l'idée d'écrire des chroniques, parce que ça, en fait, j'ai démarré comme ça, sur des petites chroniques d'en gros une page que j'envoyais par mail et par courrier à mes potes, dans mon esprit, c'était une manière de continuer à faire de la politique un peu autrement, quoi. C'est-à-dire que c'était une manière de regarder le monde et d'essayer d'avoir un regard critique sur le monde. Et en final, je pense que dans mes chroniques, il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça. Il y a aussi plein de choses beaucoup plus subtiles sur ma manière de vivre à moi, en fait. Ma manière de ressentir les choses, de vivre dans le monde, d'être traversé par des machins, etc.
Oui, ceci dit, ceux qui ont lu tes chroniques l'ère du temps diront que oui, c'est vrai, ça restait toujours politique. Tu recherchais justement une articulation entre une sensibilité, l'expression d'une sensibilité personnelle, mais enfin, pas, c'était pas une invitation à venir partager ton tas de petits secrets, comme aurait dit Freud. C'était plus en relation justement avec comment est le monde aujourd'hui, avec une espèce de volonté d'être juste dans le diagnostic, posé sur où va le monde, et moi j'y vais avec, et donc c'est moi qui le vis et qui peut le dire d'où je suis. Mais effectivement, je pense que ça continue à être politique dans la manière de chercher cette articulation.
Ouais, sans doute, sans doute. Mais en essayant d'être un peu décalé, d'avoir une sorte de pas de côté. Et donc, j'ai démarré ces chroniques en 2003, donc un peu plus d'un an, je crois, après être arrivé sur Montpellier. Et je crois que j'ai tenu le rythme d'une chronique mensuelle pendant 5 ou 6 ans, avec à chaque fois l'envie vraiment de faire partager quelque chose. Et c'était sympa parce que j'avais pas mal de retours, en fait. Les gens qui les lisaient avaient envie de réagir à ce que je disais, soit parce qu'ils étaient d'accord, soit parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ça permettait d'engager des débats, de continuer à engager des débats.
Quand on parle de passage à l'écriture, il y a aussi l'idée de se forger un style, de travailler la matière, le mot, la langue, travailler la langue. Et bon, parce que c'est vrai que ton écriture, elle date de certainement de ton activité militante. On s'en souvient, ceux qui ont partagé un certain nombre de combats avec toi savaient très bien que tu savais écrire un tract, construit avec les bons paragraphes, la bonne articulation, etc. Mais là, c'est autre chose quand même, c'est travailler la langue,
ouais.
La forme.
Ouais. Alors sur ça, j'étais pas du tout à l'aise et j'étais pas du tout sûr de savoir. Et j'avais demandé pour la première chronique à un ami qui, lui, travaille l'écriture de manière quasi quotidienne, de me servir un peu de cadre. Donc je lui ai envoyé un premier truc, il a réagi, il m'a dit là c'est pas clair, là nanana. Et on a fait quelques échanges comme ça, ça a duré 3 semaines, un mois. Et à un moment, j'ai dit, bon, voilà, je peux envoyer ma première chronique à tout mon réseau. Et puis, au bout du deuxième numéro, je me suis dit, bah, j'en ai marre d'attendre un mois pour pouvoir diffuser. Donc, j'ai coupé les appuis, quoi. Et je me suis vraiment lancé. Et puis voilà, après, le truc était enclenché.
Alors, il y a l'écriture, on a vu ce passage. Après, il y a l'idée du livre. C'est-à-dire, il y a une différence quand même. La chronique, éventuellement, les chroniques peuvent être assemblées, ça peut faire un ensemble. Mais l'idée du livre, c'est quelque chose quand même de différent. L'idée un peu qu'on sort un objet qui sort de soi, enfin qui n'appartient plus au bout d'un certain moment, qui peut être approprié par tout un tas de personnes avec lesquelles on n'a pas de rapport sensible, direct.
Ouais, alors déjà, il y a eu une phase un peu intermédiaire, parce que à un moment, j'ai découvert sur Internet qu'on pouvait fabriquer du vrai livre en auto-édition avec quelque chose qui ressemble à... qui a de la gueule, quoi. Et donc, j'ai repris toutes les chroniques et je les ai coupées, mais vraiment au ciseau, pour essayer d'en tirer quelque chose qui, de mon point de vue, avait une cohérence d'ensemble. Et donc, ça a donné un petit livre rigolo qui est sorti il y a 4 ans, qui s'appelle Étonnant Trilobite, qui est distribué par The Book Edition. C'est une maison d'édition. Enfin, c'est pas une maison d'édition, c'est... Un site internet de diffusion de livres, en fait, hein, d'impression et de diffusion de livres. Et j'ai pris pas mal de plaisir à jouer du ciseau, comme on faisait nos premières émissions de radio, avec du son, des bandes-son, et qu'on coupait au ciseau pour faire du montage. Là, c'était la même démarche, mais avec du texte écrit au kilomètre, en fait. Et c'était déjà une première démarche d'aller vers du livre, même si c'était des petits morceaux qui s'aggloméraient. Et en final, quand on regarde la manière dont est écrit Le silence a le poids des larmes, c'est pas totalement non plus différent de ça, c'est-à-dire que c'est une logique de petits textes qui prennent forme les uns à côté des autres, et c'est justement la manière de les agencer les uns à côté des autres qui donne sans doute la texture un peu particulière, et puis le suspense ou les avancées ou les reculs de l'histoire, en fait.
Est-ce que tu te disais déjà, à ce moment-là, quand tu es passé des chroniques au livre édité par Internet, enfin, je ne sais plus comment on peut dire ça, est-ce que tu avais déjà l'idée que peut-être tu aimerais bien écrire un livre ? Cette idée, j'ai envie d'écrire un livre, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu assez tôt ?
Alors, j'en sais plus rien. Je pense pas que c'est le truc qui me motivait d'abord. Par contre, ce qui est clair, c'est que après 5-6 ans d'écriture de chronique, j'avais toujours autant envie d'écrire et j'avais envie de disposer de plus de temps pour écrire. Et je me suis mis à temps partiel pour dégager du temps pour écrire. Je savais pas ce que j'allais écrire, je savais pas où j'allais. Mais je savais que j'avais besoin de cet espace pour que quelque chose d'autre puisse naître. Et en fait, très très rapidement, l'idée du livre tel qu'il est là, c'est venu, quoi.
Mais dans l'intervalle, il y avait eu un livre sur ton père, non ?
Alors,
le fil, il n'était pas publié, mais...
Entre-temps, effectivement, en 2005, donc au milieu de toutes ces chroniques, il y a eu une première expérience littéraire, on pourrait dire. Hein. J'avais envie, pour marquer le coup de fêter les 80 ans de mon père, de lui fabriquer un livre pour lui. Mon père était un prolo qui ne lisait pas de livres. Il lisait le journal, mais il lisait pas de livres. Et j'ai eu envie d'écrire pour lui spécialement, pour fêter ses 80 ans, un livre qui lui soit propre. Donc je l'ai interviewé sans qu'il sache pourquoi. J'avais inventé une histoire, un bobard, en lui faisant croire que c'était un travail d'atelier d'écriture, qu'il fallait que j'interviewe quelqu'un. Donc je trouvais que c'était bien de l'interviewer lui, voilà. Donc je pense qu'il n'avait pas senti le truc venir. Et je l'avais interviewé sur sa vie et principalement sur son enfance. Et donc j'ai fait un premier livre qui, là aussi, est un système de petits textes collés les uns à côté des autres et qui donne du sens justement par le collage, parce que je déroule au fur et à mesure son enfance et la mienne, avec les 50 ans d'écart, les 40 ans d'écart qu'il y avait entre son époque et la mienne, et ce décalage d'époque et dans la manière de vivre d'un enfant dans les années 40-50 et d'un enfant dans les années 70-80, je trouvais que c'était assez parlant, quoi, de voir c'est la même vie, c'est les mêmes gosses, mais c'est plus du tout les mêmes choses.
Alors, on va bientôt entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le livre « Le silence a le poids des larmes ». Mais on va écouter un petit peu de musique et il faut le préciser, la musique que l'on écoute, qu'on a déjà écoutée, ce sont des musiques, hein, que tu as choisies, Christian. Alors, on va présenter le premier morceau que l'on a écouté, puis celui qu'on va écouter maintenant.
Alors, le premier morceau, c'était Jacques Higelin et Areski pour un petit morceau musical qui s'appelait Signalétique, qui, je trouve, colle bien au thème de la soirée. Et ce qu'on va écouter maintenant, c'est un morceau de Pierre Akendengue, Africa Obota. Thank you.
mamba atomique, tango révolution, au bout de liberté, nono aninde, volando, volando, oui c'est beau. Capang unité, noningo, noningo, asapini unité, akavia bunjem, akavintua o.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, toujours libre, toujours sans pub. Avec Laurent, nous recevons Christian Lejaune pour la parution de son livre « Le silence a le poids des larmes », livre édité par les éditions L'Harmattan. Laurent ?
On va rentrer dans le sujet de quoi il est question dans ce livre. Si on le faisait à la manière de la lecture rapide de Woody Allen, c'est l'histoire de ton grand-père. Bon, mais c'est pas exactement une enquête généalogique, bien que le fond de l'affaire soit quand même une enquête. Bon, c'est peut-être aussi un peu romancé, et en tous les cas, ça roule aussi bien qu'un roman, ça se déroule aussi bien qu'un roman. C'est en même temps un formidable témoignage historique, parce que on est plongé dans une époque à laquelle on croyait ne pas pouvoir avoir accès. Tu nous donnes accès à cette époque avec beaucoup de documents. Comment tu qualifierais le genre, si c'est un genre. Est-ce que ça existe, ce que tu as fait comme genre? Alors, et toi, comment tu l'interprètes?
Ça existe un peu, parce que j'ai lu plusieurs trucs qui peuvent ressembler un peu à ça. Je pense à Hélène Epstein, qui est une journaliste américaine qui fait de la littérature, qui est une enfant née de parents juifs ayant vécu la Shoah en Europe, ayant émigré ensuite aux États-Unis, et qui a un besoin irrépressible de retrouver la connaissance de ses origines et passer par-dessus le silence de ses parents. Là aussi, il y a un gros travail autour du silence. Je pense que la principale référence, s'il devait y avoir une référence entre mon livre et un bazar qui existe par ailleurs, ça serait peut-être Hélène Epstein. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment un mixte. J'aime pas les trucs enfermés, les cadres trop formels, etc. Donc j'ai besoin d'espace plus vaste. Et donc je voulais faire un mixte entre du pur roman et de la pure enquête. Et donc ce livre, en fait, pour moi, dans mon esprit, dès le départ, et je pense que j'ai réussi à le mener au bout, c'était d'enchevêtrer, d'emmêler une histoire de personnages qui là ont existé, mais à la limite qu'importe, quoi. Une histoire de personnages et un travail d'enquête, et que les deux se mêlent et s'en mêlent, et que ça donne un objet littéraire en finale.
Et forcément, en raccordant ça à la grande histoire, mais enfin, il n'y a même pas besoin de faire le raccord. On ne va peut-être pas déflorer tout le sujet, mais enfin, il faut quand même dire deux mots. Là où, j'allais dire, la vie de ton grand-père se prête à ton projet, c'est que sa vie personnelle n'est pas banale. Et en plus, l'époque qu'il a traversée et la manière dont il l'a traversée ne lui a pas fait éviter les grandes heures du XXe siècle. Bon, et donc, première chose, quand même, c'est pas une vie banale. Ça commence quand même assez mal. On pourrait dire le mélo est plutôt au début qu'à la fin. C'est un enfant qui va être abandonné par sa mère. Et c'est ça qui fait aussi... Bon, que l'enquête est intéressante, bien entendu, et qu'il n'y a pas grand-chose au départ, quoi. Enfin, tu pars avec peu de choses dans les mains.
Ouais, alors c'est un enfant qui n'a pas de père et qui est ensuite abandonné par sa mère. Donc c'est vrai que ça fait un peu... C'est pire que Zola, quoi. C'est du Dickens.
Il n'est pas abandonné à l'âge de 3 semaines.
Ouais, il est abandonné à l'âge de 10 ans. Mmh. Il est né en 1896, il est mort en 1974. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'est que il a traversé les parties les plus folles et les plus riches du XXe siècle, parce qu'en gros, depuis 1974, c'est la modernité, la postmodernité, mais les éléments phares, ils se jouent globalement avant. Et donc à la fois il y a pour lui la grande histoire, parce qu'il se fait quand même la guerre 14-18, qui est quand même pas anecdotique. Il adhère au parti communiste dans les années 30, à un moment où le PC est pas un parti assagi comme on le connaissait il y a quelques années, j'ose même plus dire comme on le connaît aujourd'hui. Et donc c'était quasiment une activité presque clandestine que d'adhérer au PC dans les années 30. Tu risquais la prison. C'était sans doute pas simple du tout. Événement aussi quand même assez particulier pour lui, c'est qu'il est resté fidèle au PC jusqu'à sa mort. Donc fallait quand même le faire de rester fidèle au PC. Après 56, après 68, enfin c'était quelque chose aussi. Donc voilà, c'était ce personnage...
Il n'était pas le dernier quand même, hein. Le PC faisait encore 20% des voix aux élections à cette époque-là.
Mais bon, en termes de militants, il y en avait quand même un sacré nombre qui avait pris la tangente après les événements de 56 et après la Tchécoslovaquie en 68, quoi. Donc obligatoirement membre actif, militant communiste, toute une vie, je pense que ça dénotait obligatoirement quelque chose dans sa psychologie à lui.
Et alors, juste peut-être, Laurent, une précision, c'est que ton grand-père, à un moment donné de sa vie, arrive à Arras, enfin à Chicourt plus exactement. Hein. Donc on fait le lien évidemment avec le fait qu'on ait dit que tu avais une histoire avec la ville d'Arras.
Ouais. Ce qui a été drôle pendant ce travail d'enquête, c'est que j'ai découvert des endroits où a vécu mon grand-père qui étaient des endroits hyper proches de où moi-même j'avais vécu des tas d'événements très riches. Et ça, à un moment, ça se bouscule dans ma tête parce que je me rends compte que ce grand-père que moi j'avais peu appréhendé, en fait, quand j'étais gamin, il me faisait plutôt peur. Après, quand j'étais ado, je le trouvais complètement ringard parce que moi j'étais gauchiste et que les gens du PC, ils me semblaient vraiment des vieux ringards, quoi. Ils étaient avec le programme commun alors que nous on chantait la révolution, quoi. Donc c'était, on pouvait pas se causer, on pouvait pas se comprendre. Et 40 ans après, quand je regarde et que je retrouve des traces de sa vie, je me rends compte qu'en fait sa vie, elle avait vraiment beaucoup beaucoup de ressemblances avec la mienne et qu'elle s'est jouée pour des moments très forts de la sienne, aux mêmes endroits quasiment que la mienne, sans que je le sache à ce moment-là.
C'est peut-être pour ça aussi que le livre, hein, bon, Laurent l'a souligné, c'est un travail d'enquête, mais par un enquêteur, entre guillemets, qui fait partie de l'objet de l'enquête. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une enquête et c'est une quête en même temps, parce qu'on a le sentiment qu'au bout du compte, au travers de ton grand-père, tu te retrouves aussi, toi et ta famille, tes racines, ce que tu as fait. Ça interroge ton activité et ton insertion dans le monde.
Ouais. En fait, je suis pas sûr que je en avais conscience en commençant l'écriture de ce livre, mais je pense que quelque part il y avait un petit bout de ma tête qui devait le savoir. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai déroulé le fil de son histoire, bah, la mienne, elle est venue s'imbriquer dedans, et que en final, c'est une biographie avec des aspects autobiographiques et un questionnement sur le sens de ma vie et quelque part plus généralement sur le sens de la vie.
Et quand tu pars à la découverte de ce grand-père, bon, tu sais sans doute déjà un certain nombre de choses. Bon,
je sais peu de choses en final.
Bon. Alors je sais peu de choses. Ça c'est quand même étrange. Hein. Enfin. Peut-être que c'est assez général, cette affaire. Finalement, on sait assez peu de choses, même sur nos parents, nos ascendants directs, quand même. On sait peu de choses. Si on devait dire des choses précises, on en serait pratiquement incapable, avec des dates, des lieux, etc. Je pense qu'on en serait quasiment incapable. Donc, tu pars à la recherche de ce grand-père. Et quand même, tu avais des attentes, des espoirs. Il y a des trucs que tu as découverts qui t'ont fait plaisir. Enfin, bon, c'est quoi ces choses qui t'ont marqué dans ton enquête policière? À un moment donné, on découvre des trucs. Bon, et c'est quoi ce qui t'a paru important? Est-ce que ce qui t'a paru important, c'est que justement, ça a été un militant PC pendant quasiment 50 ans, mais 40 ans, qui n'a jamais manqué à l'appel, avec un engagement sincère, droit, honnête, même si toi tu dis après 56 quand même, après Khrouchtchev quand même, bon. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Est-ce que ça t'a fait plaisir, par exemple, que ce soit un vrai militant PC, vraiment du côté de la classe ouvrière, qui ne s'est pas justement pas posé trop de questions, quoi, parce qu'il y en a des petits bourgeois qui se sont posés trop de questions, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. En fait, c'est pas cette partie-là qui a été pour moi la plus significative, parce que, en fait, mon grand-père adulte, c'est-à-dire après 20-25 ans, donc une fois qu'il a des enfants et que ses enfants peuvent me raconter la vie de leur père, puisqu'ils l'ont vécu, pas comme lui, mais dans sa proximité, cette partie-là, à la limite, je la connaissais en grande partie.
C'est ton grand-père maternel.
Maternel. Par contre, ce qui était pour moi sacrément excitant, c'était que lui avait pas parlé de son enfance à ses enfants et qu'il y avait donc énormément de vide dans son histoire. Et donc, c'était ça aussi le côté, le challenge derrière l'écriture de ce livre et sa recherche, c'est que je m'étais dit, puisque en fait je sais rien de sa vie entre 0 et 20 ans, en gros c'était ça.
Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à croire. Enfin, ta maman, elle avait rien à raconter sur cette période-là. Elle ne savait pas que c'était un fils de l'assistance publique, un enfant de l'assistance publique.
Alors
elle savait pas qu'il avait été abandonné à l'âge de 10 ans.
Elle savait un peu des choses. Elle savait qu'il avait pas eu de père et qu'il y avait une vague photo qui traînait. La preuve, c'est que c'est ce qui me sert de base de départ, hein. Une photo conservée par une cousine. Et c'est ça qui, à un moment, me fait tilt. Elle me la montre, et puis 3 ans après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette photo d'un mec dont j'ai jamais entendu parler, dont d'ailleurs plus personne après n'a entendu parler, qui était le père de mon grand-père, qui s'appelait Léon. Et c'est la trame de départ. Et en fait, l'histoire, elle est un peu comme Truman Capote, quand il a écrit 200 froids, il voulait écrire un roman qui s'ancre dans le réel, à partir d'un événement, mais pour lequel on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc il est parti d'un fait divers, d'une brève de fait divers dans un journal qui faisait 5 lignes, sur un quadruple meurtre dans le Kansas, dans les années je ne sais plus combien. Et il est allé enquêter, et coup de chance pour lui, au bout d'un moment, les meurtriers ont été arrêtés, il est rentré en contact avec eux, il est devenu très très proche, et ils se sont, les deux meurtriers se sont complètement livrés, ce qui a donné un livre d'une richesse fabuleuse, qui a été d'ailleurs sans doute fatale à Truman Capote, parce que je crois qu'il s'en est jamais vraiment remis. En final, après, il est devenu fou et alcoolique. Et dans ma démarche, quelque part, il y avait un peu cet aspect, je pars à la pêche, à l'inconnu, et si j'ai de la chance, il y aura de la matière, et si j'ai pas de chance, il n'y aura pas de matière, ça fera une nouvelle de 15 pages. Et la chance fabuleuse que j'ai eue, c'est que par le biais des archives, j'ai retrouvé une masse formidable de documents d'époque, qui m'ont permis de donner de l'épaisseur au livre. Mais ça aurait pu mal tourner, cette histoire. J'aurais pu, notamment aux archives de Paris, de l'assistance publique, quand l'archiviste me donne la pile de documents qui est conservée. Et moi, ça, je trouve que quand même, ça, c'est fabuleux que 100 ans après, l'administration publique continue à collecter, à archiver, à stocker et à rendre accessible à qui le demande des documents dont je suppose que 99,9% ne seront jamais utilisés. C'est quand même, on a une chance fabuleuse dans nos sociétés. Et donc, quand l'archiviste me donne la pile de documents, elle me dit, vous êtes chanceux. Et c'est vrai qu'il y avait 91 documents. La plupart du temps, je suppose qu'elle donne des documents qui font 3 pages, quoi.
Là, tu parles de l'archiviste, pardon, deux mots, tu parles de l'archiviste de quel endroit ?
Des archives de Paris où était stocké l'ensemble du dossier d'enfants assistés, donc d'enfants de l'assistance publique, de mon grand-père.
Oui, c'est pour ça qu'il y a des pièces qui sont regroupées au même endroit, parce que sinon, elles n'ont pas de raison de se retrouver concentrées dans un dossier.
Oui, alors en même temps, par un travail d'enquête, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver aussi plein de données éparses. Notamment des données d'instituteurs. Je suppose qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui écoutent PFM. Sachez, chers enseignants, qu'un jour, vos dossiers administratifs, les rapports d'inspection de votre inspecteur éducation nationale qui vient dans votre classe voir si vous faites bien l'école aux enfants, ces choses-là, dans 50 ans, dans 75 ans, je ne sais plus quelle est la durée... où c'est rendu public, pourront être lus par tout un chacun. Et donc, en recherchant par école, en fait, dans les petits villages où il a habité, j'ai retrouvé les documents qui m'ont permis de retrouver les enseignants qu'il a eus, les instituteurs qu'il a eus, l'institutrice notamment qu'il a eus.
Moi, j'allais te questionner sur la question sur les coïncidences, parce que bon, tu as déjà fait allusion à ça, tu as retrouvé des lieux qui faisaient écho à ce que toi-même tu avais vécu. Mais il y a une autre coïncidence qui est inscrite dans le titre du livre, hein, Le silence et le poids des larmes, avec la vie d'Aragon. Mais bon, on va continuer sur la place des archives, parce que c'est un aspect particulier de la construction de ton livre, c'est-à-dire que un certain nombre d'archives, tu les cites...
In extenso.
Voilà. Ouais. Et c'est important. C'est, quand on voit ce que disent ces archives de l'assistance publique, c'est impressionnant, quoi. L'énumération. Bon, tu cites d'autres pièces aussi sur ce que doivent emporter les soldats pendant la guerre 14 à un moment donné, je ne sais plus très bien.
Ouais, leur barda.
Et quand on fait le total, tu dis bah ils doivent se balader, ils doivent monter à l'assaut avec 20 kilos sur le dos, ouais. Je ne sais plus, enfin des trucs impossibles. Et ça, c'est un choix aussi que tu as fait. Comment tu l'as décidé justement de citer ces archives, ces textes-là tels quels?
Ça me semblait être un élément important. C'est aussi la logique du collage, en fait. C'est plutôt que de dire, ben voilà, ça raconte ça, ben, tu colles le document. Alors bon, là, je n'ai pas collé les documents, mais j'ai écrit ce qui était écrit. Enfin, j'ai repris dans le livre mot pour mot et les virgules sont les mêmes, les points sont les mêmes, la ponctuation est la même. Ce qui figure dans ces documents, et je trouve que ça donne une force par moment... À la lecture qu'il n'y aurait pas si j'avais essayé d'expliquer ce que c'était justement. Alors que là, le fait de dire quel est le trousseau qui est donné à la famille d'accueil, trois pantalons, deux pulls, une paire de galoches, etc., je trouve que ça rend complètement concret la réalité de la situation et c'est hyper touchant, quoi.
Peut-être on peut te demander de nous lire un petit extrait, mais justement, ça va être peut-être, on va peut-être pas te demander de tout lire, quelque chose justement qui n'est pas écrit par toi, c'est simplement une archive justement. Et bon, pour situer, donc dans la première, le livre était en trois parties, trois noms de femmes d'ailleurs, hein, Louise, Juliette, Alice. Bon, on va pas détailler qui sont les personnages, mais donc le premier personnage, Louise, c'est la maman de ton grand-père maternel. Ouais. Donc c'est maman qui arrive à Paris, bon, soit avec un gamin, soit enceinte, on ne sait plus, on sait pas très bien. Ça dépend.
Enfin, au début, on ne le sait pas.
Voilà. Et donc tu à cette occasion, c'est très intéressant ce passage, c'est la situation des femmes seules. Vivant à Paris, des femmes seules, jeunes, qui arrivent de la province et qui sont transportées à Paris. Et là, tu as fait une recherche sur des autobiographies de femmes parisiennes, c'est ça ?
Ouais, exactement. C'est-à-dire que cette arrière-grand-mère, elle a laissé aucune trace de son passage sur Terre, sauf une signature. Et donc, j'avais vraiment aucun élément direct, concret, qui me permettait de rendre compte de sa vie. Et dans ces cas-là, on essaye de chercher des pareils, des similitudes. Donc j'ai regardé dans la littérature ce qui pouvait avoir été écrit à la fin du 19e siècle sur des provinciales venant vivre à Paris, parce que c'était la situation de mon arrière-grand-mère. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait quasiment aucun texte qui relatait ça, parce que... À l'époque, les femmes n'avaient pas le temps ni n'étaient reconnues comme pouvant écrire. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui m'aiderait dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur un livre de Philippe Lejeune qui s'appelle Le Mois des Demoiselles, qui est un travail d'enquête sur des journaux intimes écrits par des femmes à travers les différentes époques. Et dans ce recueil, parce qu'il y a une partie d'enquête et une partie où il cite in extenso des extraits de journaux de ces femmes, j'ai retrouvé une femme qui s'appelle Fortunée, qui a 20 ans, qui arrive seule à Paris à la même époque que mon arrière-grand-mère, et qui, elle aussi... a subi un revers amoureux et donc est un peu désespérée.
Oui, ce texte est vraiment formidable. Moi, j'aime beaucoup et c'est bien que tu l'aies choisi et que tu l'aies placé. Peut-être, bon, il est en deux parties. Peut-être tu pourrais lire une partie de la seconde. Alors, bon, elle explique qu'elle n'a plus de courage. C'est terrible de chaque jour savoir si, de pas savoir si on va trouver un peu de pain. Elle parle des Parisiens. Il me faut ma mère. Je me sens mourir au milieu. Je me sens mourir au milieu de ces étrangers, ils sont égoïstes, les Parisiens. Et il y a tout un passage comme ça. Peut-être que tu pourrais lire à partir de Hippolyte. Hein, Hippolyte, c'est un peu le correspondant
de Léon.
De Léon, qui est le père qui a abandonné ton grand-père maternel, si tout vous à arrivez fait. À suivre.
Hippolyte, je t'aime. Pourquoi m'as-tu laissé partir? Pourquoi as-tu refusé quand je te suppliais de m'emmener? Avec toi, j'aurais repris courage, j'aurais demandé à mes parents de m'accorder leur pardon. Ici, je suis seule, chaque jour m'éloigne d'eux et me rend plus craintive. Et que faudra-t-il faire quand je n'aurai plus d'argent? Mon Dieu, je suis lâche, je n'ai pas le courage de mourir. Un de ces jours passés, je suis entrée à la morgue. Il y avait deux cadavres d'hommes exposés. Vois-tu, c'est horrible d'être là devant tous ceux qui veulent nous voir, et puis ce monde qui s'agite, qui parle autour de nous, qui nous regarde avec plus de froid que n'en ont les couches de marbre et notre corps raidi, les coups d'œil d'effroi que l'on se jette en sortant. Oh, que cela est triste! Il y a maintenant une jeune femme couchée là-bas, et moi, quand y serai-je? Oh, que les morts sont heureux! Et cinq jours après, Fortuné se jetait dans la Seine. Donc là, on est vraiment sur de l'histoire réelle.
Droit devant moi, je cours les routes en vagabond.
Magazine Tumulte sur Radio PFM, nous sommes en compagnie de Christian Lejaune pour son livre « Le silence a le poids des larmes », livre paru aux éditions L'Harmattan pour l'interviewer. Je suis avec Laurent.
Et je suis avec Jean.
Et je suis avec Jean et Laurent.
Christian, dis-nous ce qu'on vient d'écouter là un peu.
Alors on vient d'écouter Pierre Barou dans un morceau qui s'appelle « Ce n'est que de l'eau ». Tout ça, tout ce qu'on a écouté jusque maintenant est issu de la même compilation de CD de 30 ans de Sarava.
On va venir à des questions peut-être plus personnelles et ton rapport à la fois, évidemment, à ce grand-père, à cette quête, comme disait Jean tout à l'heure, et puis la littérature et la vie, quoi, le rapport entre... Mais pour rentrer directement dans le sujet, c'est sûr que dans ce livre, il n'y a pas que une quête personnelle, il n'y a pas que l'interrogation aussi sur la vie de ton grand-père, mais en même temps, ça aurait pas pu être sans doute l'histoire d'un autre grand-père, enfin j'imagine. Bon. Et tout à l'heure, tu nous as laissé entendre, et ça fait partie, c'est à la fin du livre, tu nous as laissé entendre que finalement, il y avait beaucoup de choses en commun dans la vie de ton grand-père et la tienne. Bon, j'avoue que j'en suis pas complètement convaincu. ça m'a fait un peu drôle quand dans le livre tu as fait ce rapprochement peut-être sur des similitudes de vie et j'ai eu du mal à comprendre ce que tu voulais dire à cet endroit-là. C'est peut-être le seul moment où j'avais du mal à te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun? Peut-on en parler ou...
Bah oui, on peut en parler bien entendu. Sinon, j'aurais pas écrit le livre.
Bon, tu suggères que c'est l'idée de l'abandon.
Alors il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect de l'abandon et je pense que c'est un élément fort. Alors moi j'ai pas été du tout un enfant abandonné, mais sans doute que dans mon expérience de vie, cette chose-là, elle fait partie quand même de mon histoire. Et dans le livre sur la fin, je prends y compris des exemples très physiques, médicales par rapport à ma constitution. Qui montre que l'abandon fait partie de mon corps, quoi, en fait. Je pense que on conserve dans nos cellules, c'est une croyance que j'ai, je suis pas le seul à le dire, mais voilà, on n'est pas dans un registre scientifique, ça dépasse largement ça. Je pense qu'on conserve dans notre corps la mémoire du passé, de notre passé, de tout notre passé, et sans doute aussi la mémoire des générations qui nous ont précédés. Et je pense que ce livre, c'était une manière pour moi de me reconnecter à la fois à mon histoire, à l'histoire de mes aïeux, et en faisant ce travail-là, je me rends compte, depuis que le livre est sorti, et que j'en parle et que des gens qui l'ont lu m'en parlent, ou lors de séances où on en lit des extraits, après des gens viennent me parler, que l'histoire singulière de mon grand-père ou la manière dont moi je l'appréhende, en fait, fait écho, résonne pour l'ensemble des humains. Et donc, c'est cet aspect-là qui, pour moi, est vraiment une découverte dans l'écriture de ce livre, c'est que en écrivant quelque chose de totalement singulier, en fait, on peut toucher à l'universel, en fait.
Oui, mais Jean me regarde comme ça en me disant « Laurent, t'as une question ?» Moi, j'écoutais surtout la réponse, parce que j'étais très curieux de connaître ce que Christian allait dire là-dessus. Oui, mais du coup, en disant ça, ça aurait pu être l'histoire d'un autre grand-père.
Bah, il se trouve que c'était ce grand-père-là qui est venu. C'est peut-être une pirouette, ma réponse. Mais
parce que bon, t'as quand même pas fait la guerre 14, et comme tu le disais tout à l'heure, t'as pas été un militant communiste, disons, t'as pas été un bon militant, quoi, un peu discipliné, aux ordres.
Mais ça, j'en parle à un endroit dans le livre, je montre que...
Il aurait justement pu te paraître étrange, ton grand-père. Enfin,
toutes ces choses-là, y compris la manière de militer, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Que en 1900, on milite sans doute d'une certaine manière. Dans les années 70, on milite plus tout à fait de la même manière. Que la réflexion sur la manière de penser le monde et l'organisation du monde, c'est des choses qui ont bougé. Et donc, je pense que les similitudes avec mon grand-père, c'est dans les actes très concrets. Il collait des affiches. La différence, c'est que lui, il prenait de la farine comme matériau pour faire de la colle, alors que nous, on achetait de la colle toute faite. Donc, les similitudes concrètes, elles sont là. Après, les théories sur la manière de concevoir un monde juste, elles ont un peu bougé.
Tu dis à un moment que lui, il avait trouvé dans la politique une famille. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose de tes engagements? Parce que toi aussi, tu as toujours été dans des collectifs, engagé dans des collectifs.
Oui, mais lui, il ne trouvait pas une famille, il créait une famille.
Est-ce que tu as vécu... Est-ce que c'est ça que tu trouvais dans la politique?
Alors, je peux répondre pour... Enfin, j'ai une interprétation sur la famille pour mon grand-père. Je pense que le fait qu'il ait vécu dans un monde où il y avait un secret autour de sa naissance, a fabriqué pour lui une psychologie particulière qui fait qu'il était bien dans un milieu qui était un milieu qui refabriquait du secret. De la même manière que Aragon, qui était lui-même un enfant ayant vécu sur un secret de famille qu'il n'apprend que quand il part à la guerre 14-18, adhère au PC à la même époque et reste fidèle au PC. Pour moi, je suis maintenant convaincu que les éléments qui se déroulent dans notre prime enfance, ils nous mobilisent toute notre vie durant, sans qu'on en ait toujours bien conscience.
Alors tu as fait une allusion à Aragon, et c'est l'explication du titre du livre, c'est un extrait d'un poème d'Aragon, comme ça au moins on n'aura pas fait totalement l'impasse sur cette question. Juste une toute dernière question, parce qu'il est l'heure, et puis je vais te demander de répondre assez rapidement. Finalement, le livre, il est construit en trois parties, et chaque partie est intitulée par le nom d'une femme. Et il y a des femmes là dans le livre, le Marcel en question, il est un peu en creux. Des personnes importantes, Louise, la maman, Juliette, la maman
adoptive,
oui, institutrice, très forte personnalité manifestement dans le livre. Et puis Alice, la femme de Marcel. Mmh. C'est quoi ce choix justement de mettre en évidence ces trois femmes?
Ouais, c'est un peu un portrait en creux, quoi, en fait. Hein. C'est une manière de parler de lui par les autres. C'est aussi la construction du livre qui est comme ça. Trois parties, chacune composée de 26 chapitres, comme les lettres de l'alphabet, donc comme le rapport à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture.
Voilà, j'espère que cette émission vous aura donné l'envie de lire ce livre. Donc on le rappelle, Le silence a le poids des larmes, aux éditions L'Harmattan. Livre écrit par Christian Lejaune, avec lequel nous étions dans cette émission. Laurent, Christian, à bientôt sur PFM.
Dans moins de 30 ans.
Peut-être. Ciao.
Et c'est ainsi que prend fin ce magazine Tumulte, qui a lieu tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. Salut, à la semaine prochaine.